Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. Pour nous, c'est le début de la semaine ici à Canal M. Oui, de retour après un long week-end, un long congé de l'Action de grâce. Et peut-être comme moi, vous avez un petit peu abusé de bonnes choses, peut-être trop mangé. Je fais ce lien-là pour nous faire réaliser que, d'autre part, il y a des centaines d'enfants au Québec qui retournent aujourd'hui après ce congé de 3 jours sur les bancs d'école, le ventre vide. Oui, parce que selon le ministère de l'Éducation du Québec, il y a plus de 33 000 enfants d'âge primaire qui vivent sous le seuil de faibles revenus, et ce, attention, seulement sur l'île de Montréal. Donc, la faim, on peut s'en douter, ça a plusieurs incidences dans la vie d'un enfant, des impacts sur sa santé physique, sur sa santé mentale. Ce que l'on oublie peut-être davantage, c'est que ça a également des impacts sur sa réussite scolaire. On en parlera en deuxième partie d'émission avec Ghislaine Théoret, elle présidente du conseil d'administration collectif de la table des écoliers, oui, et présidente directrice générale de Garde-manger pour tous, parce qu'elle nous parlera d'un projet qui s'appelle Cantine pour tous et qui offre des repas chauds, nutritifs aussi dans les écoles primaires, et ce pour donner la chance, une chance égale à tous les enfants. Et d'autre part, vous rappelez que octobre et le mois de la sensibilisation au cancer du sein. C'est un moment idéal, un moyen aussi de signifier notre nombreuses femmes touchées par cette maladie à toute leur famille, hein, parce que quand une maladie comme ça survient, oui, ça touche une femme, mais ça touche aussi tous ses proches. Et aussi, vous faire un petit rappel, hein, il y a une femme sur 9 qui recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Donc, c'est énorme. Et en même temps, ce mois-là, le mois d'octobre, celui de la sensibilisation au cancer du sein, c'est un moment de prendre des actions concrètes afin de peut-être arriver à prévenir, contrer ce cancer-là et de prendre la santé de nos seins en main pour tenter de nous aider à y voir plus clair. Maxime Dumais, lui, vice-président programme et investissement en cancer du sein pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Maxime Dumais, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Merci d'être là. Maxime, vous êtes, je le disais tout à l'heure en blague, là, avant que l'on ouvre les micros, vous avez un long titre, dont celui de Programme et investissement en cancer du sein. Là. Ça va dans votre titre. Et en même temps, ce que l'on peut lire, c'est que depuis 1986, le taux de mortalité lié au cancer du sein a diminué de 43 %. Donc, à quelque part, ça vaut la peine d'investir pour la prévention et de divulguer de l'information autour de ce cancer-là.
Oui, bien, il y a tout un volet de mon travail qui n'est pas inclus dans mon titre, qui est promotion de la santé. Donc, on parle de réduction de risque et tout ça. Effectivement, il y a des investissements qui ont eu un impact concret, mesurable sur le taux de mortalité, mais aussi on espère avoir un effet sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de cancer qu'on va trouver par année.
Pour vous, du côté de la Fondation du cancer du sein du Québec, Maxime, la prévention du cancer du sein, ça passe par 3 actions bien concrètes.
Quand on parle de prévention, on parle un peu les 3 pratiques de santé du sein. Donc, il y a l'observation des seins que les gens peuvent faire eux-mêmes, puis à tout moment. Il n'y a pas de technique particulière. Par le passé, on parlait d'auto-examen des seins qui faisait référence à une technique, à des moments précis. On s'est rendu compte que cette façon-là de le présenter, il y a certaines femmes qui ne se sentaient pas habilitées à le faire, donc qui disaient « moi, je ne suis pas capable, je ne vais pas le faire ». Donc, puis ça a été démontré que ça changeait pas, ça n'avait pas d'effet sur la mortalité. On s'est dit, on va changer un petit peu, on va dire aux gens de connaître, on invite les gens à connaître leur corps, donc de savoir qu'est-ce qui est normal pour eux. C'est pas tout le monde qui est fait de la même façon. Donc, en palpant son sein à l'occasion, en regardant aussi s'il y a des changements aussi qui peuvent être soit observés visuellement ou au toucher aussi. Donc, c'est des choses qu'on invite les gens à faire de façon régulière. Il n'y a pas de une fois par mois ou tout ça. Vous le faites quand vous trouver pour être en mesure de voir si un changement, de le détecter rapidement puis d'en parler avec son médecin. Mm-hmm. L'autre chose, c'est l'examen clinique des seins qui est fait par un spécialiste. Donc, ça peut être un médecin, un praticien, une infirmière dans certaines occasions, un gynécologue qui peut, avec son expertise, voir s'il y a une masse, il y a quelque chose, un signe qui mériterait d'être investigué un peu plus. Le troisième volet, on parle de mammographie, donc chez les femmes de 50 à 69 ans. Par contre, les trois pratiques, comme vous dites là, ça n'aura pas d'effet sur prévenir ou réduire son risque de cancer du sein. Ça va aider à le détecter ou à dépister plus tôt.
Une détection précoce.
Exactement, voilà. Puis de pouvoir agir plus rapidement et peut-être mettre toutes les chances de son côté.
Donc, peut-être pas pour rectifier le tir, la prévention du cancer, mais peut-être la prévention de la mortalité.
Oui, c'est des outils qu'on a à notre disposition, que les femmes et les hommes aussi. Il faut rappeler que le cancer du sein touche aussi les hommes en moins grande proportion. Il y a environ une cinquantaine de cas par année versus 6 000 nouveaux cas de femmes. Mais quand même, donc, les hommes peuvent être touchés. Donc, c'est des outils qui sont à notre portée. Pour réduire son risque, faut faire attention quand on parle de cancer du sein et de prévention dans la mesure où on ne peut pas. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va nous assurer qu'on n'aura pas un cancer du sein. Mm-hmm. Malheureusement, ce n'est pas une maladie infectieuse, ce n'est pas un agent externe qu'on peut bloquer. C'est une maladie, ça vient d'un dérèglement d'une de nos cellules qui peut être causé par différents facteurs aussi. C'est une maladie qu'on dit multifactorielle. Donc, il n'y a pas juste un événement au niveau biologique ou qui va provoquer l'apparition d'un cancer. Fait qu'on aime mieux parler de réduction de risque. Puis là, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qui semblent évidentes de l'alimentation, faire de l'exercice, le tabagisme. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les données récentes ont démontré qu'il y a un lien vraiment direct. Donc avant, c'était un peu des conseils généraux de santé. Mais là, on connaît qu'il y a les valeurs un peu. Quel comportement va comporter quel risque? Puis souvent, ça va être en combinaison. Donc, on informe les gens là-dessus puis on les invite à prendre des saines habitudes de vie.
Il y a beaucoup de mythes aussi autour du cancer du sein. Et puis d'ailleurs, sur le site observationdesseins.org, qui est d'ailleurs très, très bien fait, assez humoristique, on peut apprendre justement mieux s'informer sur ce cancer-là et sur tous les mythes qui y sont encore liés. Entre autres choses, on peut parler d'âge. On pense que si on est toute jeune, 25, 30 ans, on est moins touché par le cancer du sein. C'est pas si vrai ça, Maxime Dumais.
C'est certain que c'est une maladie. Un des facteurs de risque, c'est d'avancer en âge. Donc, plus on vieillit, 80 % des cas se trouvent chez les femmes d'en haut de 50 ans. Donc, on peut dire, ça ne concerne pas les jeunes, mais si on retourne la statistique à l'envers, c'est quand même un cas sur cinq qui se présente chez les femmes en bas de 50 ans. C'est aussi la première cause de mortalité par cancer chez les 25 à 49 ans. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est important. Mais c'est certain. L'autre chose aussi, il faut voir... faut pas que les gens... faut trouver l'équilibre entre la sensibilisation aussi puis l'inquiétude. Il y a des jeunes femmes, il y a des études qui ont démontré que si les femmes sont trop inquiètes trop tôt, ils font plus l'observation des seins qui arrivent plus tard dans l'âge. Donc, faut trouver l'équilibre entre connaître son corps, savoir ses risques, connaître son histoire familiale, par exemple, en parler avec son médecin s'il y en a eu, il y a des cas dans notre famille parce qu'il y a des liens aussi génétiques. Il y a certaines mutations qu'on connaît, les plus connues, BRCA1, BRCA2, on connaît tous l'histoire d'Angelina Jolie, mais il y a d'autres mutations aussi qu'on ne connaît pas nécessairement encore, qu'on n'a pas identifiées, mais qu'on sait qu'il y a des familles dans lesquelles on retrouve un plus grand nombre de cas, même si on n'a pas été capable de savoir de la raison précise. Donc, c'est important, s'il y en a dans notre famille, d'en parler et peut-être de faire un suivi plus particulier dans ce cas-là.
Mais en même temps, il y a plein de bonnes raisons pour commencer à faire l'observation des seins. Et entre autres choses, pour certaines femmes, ça peut les rassurer, Maxime Dumais.
Tout à fait. Il y a des femmes qui nous disent, j'ai peur de le faire une première fois, puis c'est un frein. Puis la première fois qu'elles vont s'observer en profondeur puis regarder leur tissu, ils vont voir, mais j'ai des... c'est pas un tissu lait, j'ai des glandes, c'est texturé, puis ils vont être inquiètes la première fois, mais plus on le fait, plus on est en mesure de voir, comme je disais plutôt, ce qui est normal pour nous. Puis aussi de le faire à différents moments selon le cycle menstruel, les seins peuvent être plus sensibles aussi, la texture peut changer, donc c'est important de le faire à différents moments, différents contextes, différentes positions aussi, couché sur le dos, dans la douche, il y en a qui nous disent avec le savon, quand elles se savonnent, c'est plus facile, elles sentent, ils ont l'impression qu'ils ont une meilleure sensation. Puis autre chose aussi, si on peut se regarder dans différentes positions devant le miroir. Quand, bon, alors, il y a des gens qui, pour qui c'est, ça peut être pas toujours possible, mais de demander à son médecin aussi d'exiger un examen clinique des seins.
Mm-hmm. Tout à l'heure, Maxime, vous parliez des changements que l'on peut observer. C'est dans les couleurs, je pense, les textures.
Oui. Le principal signe, et celui qui est le plus connu, c'est la masse. Donc, une masse qui est palpable, mais il y a autre chose. Notamment, il y a des types de cancers comme cancer du sein inflammatoire où le cancer va se développer on peut dire, sur la peau. Donc, il peut avoir une rougeur du sein, un gonflement, un changement de forme, aussi un phénomène qu'on appelle l'apparition d'une peau d'orange. Donc, c'est vraiment la peau devient plus dure et ça ressemble véritablement à une orange. Donc, ça, c'est des signes qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi au niveau du mamelon, le mamelon qui peut être inversé, donc le mamelon qui rentre vers l'intérieur, un écoulement aussi qui peut être sanguignolant. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas du pus, c'est pas une infection, c'est vraiment, c'est particulier. Si un autre type d'écoulement, ça peut être un autre problème de sein, mais c'est rarement un cancer. Mais c'est important, surtout, c'est d'en parler quand on observe un de ces signes-là.
Et on court chez le médecin, évidemment. Oui,
on va voir le médecin, on court chez le médecin. On essaie de faire attention. Il y a des gens qui nous appellent, on a une ligne de soutien, les gens nous appellent des fois, ils ont des signes, puis on se dit, ben, écoutez, oui, allez voir votre médecin. Est-ce que ça nécessite d'être à l'urgence? Je pense qu'il faut faire attention. Puis c'est des signes qu'on dit, est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est persistant aussi dans le temps? Parce que ça peut arriver, on utilise une nouvelle crème, une lotion pour le corps, puis là, on a une réaction, une rougeur ou quelque chose, puis une semaine après, ça disparaît.
Ah oui, certainement.
Mais c'est parce qu'on entend de toutes les sortes. Mais donc, il faut voir si ça mérite d'être investigué. N'hésitez pas à aller consulter votre médecin.
Maxime, il y a aussi un mythe par rapport au cancer du sein que j'ai entendu très souvent, c'est « Ah, si ça fait mal, c'est pas dangereux. » Est-ce qu'il faut s'y fier?
Non, malheureux, c'est dans beaucoup de cas, le cancer n'est pas douloureux. Mais je pense que la douleur, même si c'est pas un signe de cancer du sein, c'est pas normal. Puis il faut faire attention. Encore une fois, il faut voir. Puis une autre chose qu'on entend souvent, quand première tempête de neige, les femmes pèlent, ils ont mal aux muscles pectoraux, donc une douleur au sein.
Des muscles,
oui,
beaucoup.
C'est ça qui sont en dessous. Effectivement, il y a toute la cage thoracique. Ensuite, il y a une couche de muscles. Donc ça peut porter à. On pense qu'on a peut-être un problème sous-jacent. Mais c'est une douleur en général qui va partir après une journée ou deux. Si on a une douleur au niveau de la peau, une rougeur qui persiste, ça pourrait être un signe de cancer du sein. Mais en général, bon, c'est pas un des signes. Vous avez raison de le mentionner, la douleur n'est pas un des signes. Et puis, au contraire aussi, c'est de dire les gens n'attendaient pas d'avoir mal ou d'aller pour consulter.
Oui, tout ça est un équilibre.
Oui.
On parlait tout à l'heure, Maxime, d'examen clinique. C'est quoi les fréquences? À quelle fréquence on peut en parler à notre spécialiste de la santé?
Idéalement, une fois par année. Mais malheureusement, je sais que c'est pas toutes les femmes ou même les hommes qui ont accès à un médecin de famille avec qui ils peuvent faire un test comme ça. Mais si on peut, si on a la chance d'avoir un examen annuel, ça devrait faire partie des tests qu'on passe.
Et ce, à partir de quel âge?
Les avis varient. Nous, on recommande aux femmes à partir de 25 ans. S'ils ont une histoire familiale, donc s'il y a des facteurs de risque particuliers, ben peut-être commencer un peu plus tôt, d'en parler avec son médecin. Mais autour de 25 ans, je pense que c'est un bon moment pour commencer.
Oui. Et il y a la mammographie dont on parlait tout à l'heure, qui devient obligatoire à partir de quel âge, donc?
C'est un test. C'est pas obligatoire, mais c'est payé. C'est remboursé par il y a un programme de dépistage qui est offert aux femmes du Québec de 50 à 69 ans, donc aux 2 ans. Avant ça, il peut être offert gratuitement aussi sous prescription d'un médecin, selon les besoins, soit parce qu'il y a un signe qui est observé. Dans ce cas-là, on va parler d'une mammographie de diagnostic et non pas de dépistage. Mm-hmm. Mais il peut être aussi offert à des femmes chez qui on soupçonne, qui ont une histoire familiale, par exemple, qui est très... dans laquelle il y a plusieurs cas. On pourrait offrir une mammographie, par exemple, 10 ans avant l'âge de l'apparition de la maladie chez la mère. C'est souvent quelque chose qui va être fait.
Mm-hmm. Est-ce qu'on sait à la Fondation si l'impact de la mammographie a vraiment réussi à soit prévenir encore là, parler de prévention, mais réduction du risque. Hein? Ça, oui. Je pense que vous préférez. Est-ce qu'on sait si ça a un réel impact?
L'objectif des programmes de dépistage, c'est de réduire la mortalité. Mmh. Donc, ce n'est pas pour trouver plus de cancer et tout ça. Il y a des études qui sont faites continuellement. Il y en a certaines qui démontrent l'efficacité de la mammographie, pas économique, mais mm-hmm. est le plus grand et le plus marqué. Donc, je pense que notre programme est efficace, a démontré son effet pour réduire la mortalité. C'est certain qu'il y a des cancers. Une des problématiques par le dépistage par mammographie, c'est qu'on trouve les cancers qu'on trouve au stade 0, même au stade 1, on n'est pas capable en ce moment de savoir comment ils vont évoluer, mm-hmm. de prédire l'évolution avec précision. Donc, est-ce qu'il y a des cancers qu'on traite, qu'on ne...
Et ça m'amène à cette question, à savoir quel est le rôle du conjoint, ne serait-ce que dans l'observation des seins ou encore là, dans l'accompagnement de sa conjointe pour une meilleure santé, pour mieux comprendre cette maladie-là?
Je pense que vous l'avez dit en introduction, le cancer, ça touche quand une personne est atteinte, ça touche plus que la personne elle-même. Ça va toucher les proches, ça va toucher les enfants, la famille, tout ça. Puis c'est certain que le conjoint est aux premières loges du soutien qui doit être soutenu, qui doit servir pendant soutenir la femme. Mm-hmm. Je pense que d'être présent, puis une des choses d'être juste d'avoir d'offrir un peu le maintien d'une certaine continuité dans le noyau familial quand il y a des enfants, par exemple. Souvent, les femmes nous disent comme ça, ils ont « Ah, mais une chance, mon conjoint était là, il a pu continuer à être présent pour les enfants, sans que la patiente ni pour le conjoint. » Il y a des conjoints qui se sentent un peu mis à l'écart de tout ça. Ça peut être difficile. Puis, à ça, je vais en profiter de votre tribune. On a un partenariat avec le réseau Entre Aidants qui fait des capsules web, justement, pour... pour l'instant, ils sont en anglais, mais c'est pour aider les hommes à... Mm-hmm. Le thématique, c'est « When Mr. Fix-It Can't Fix-It » ou des trucs comme ça, des petits trucs pour les hommes. Donc, il y a des ressources qui existent pour aider les conjoints là, de femmes qui ont le cancer du sein.
Et la bonne nouvelle, c'est que les hommes sont de plus en plus sensibilisés au cancer du sein, pas seulement les femmes. Moi, j'ai déjà entendu une amie me dire « Ah, ben c'est mon chum qui m'a trouvé une petite masse. Ça m'a inquiété, évidemment. Je suis allée consulter. Bon, c'était correct, mais quand même, il y a ce souci-là. » Et ça, ben, c'est une bonne nouvelle là, si on peut toucher la majorité de la population, bien sûr.
Oui.
En terminant, Maxime, je le disais tout à l'heure, c'est le mois octobre de la sensibilisation au cancer du sein.
Tout au long de l'année. Sinon, il y a ce qu'on appelle nos initiatives communautaires. Donc, c'est les gens, en général la population, qui vont organiser des collectes de fonds dans leur communauté. Sinon, la fondation elle-même, nous organisons un événement le 28 octobre prochain qui s'appelle Rose le soir. C'est un cocktail bénéfice. Oui. Donc, les gens, vous êtes tous conviés à y participer. Mais regardez... Dans vos régions respectives, il y a peut-être des initiatives qui sont là. Vous pouvez consulter notre site rubanrose.org. Il y a une liste des activités avec lesquelles on travaille.
Et je pense que c'est important de dire que du côté de la Fondation du cancer du sein du Québec, il y a tout un service aussi. Là, aujourd'hui, on a parlé de réduction de risque beaucoup, puis de sensibilisation, sauf qu'il y a un support aussi aux femmes touchées.
Oui, il y a un service, une ligne de soutien donc qui est offerte aux femmes partout à travers la province. Donc, c'est une ligne sans frais. Il y a un forum de discussion aussi qui est offert sur notre site web donc pour les femmes qui sont touchées par la maladie spécifiquement, qui peuvent parler entre elles, échanger des trucs, des conseils, du support. Les gens peuvent communiquer avec nous. Il y a de l'information également sur notre site web.
C'est précieux, ça. Maxime Dumais, vous êtes vice-président programme et investissement en cancer du sein de la Fondation du cancer du sein du Québec. Merci beaucoup et bon mois d'octobre.
Merci à vous et observez-vous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Ghislaine Théoret, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes présidente du conseil d'administration collectif de la Table des écoliers, également présidente directrice générale du Garde-manger pour tous. Et vous êtes là pour nous parler aujourd'hui de Cantine pour tous, qui est un programme d'éducation à la nutrition et aux saines habitudes de vie et qui offre aussi des repas nutritifs à des enfants d'âge primaire qui en ont de besoin. Madame Théoret, je veux citer Diane de Courcy, qui est un petit peu, qui a été là à la base de ce projet-là, qui disait « Ventre creux n'a pas d'oreilles ». Et je trouve que c'est assez révélateur pour des milliers d'enfants qui vont à l'école le ventre vide.
C'est vrai. Hein? Oui. C'est donc vrai. Et voyez-vous, hein, la cantine pour tous là, est née grâce à 13 organismes communautaires qui font du travail dans les écoles depuis au moins 25 ans.
Mm-hmm.
Alors donc, ça venait il y a 25 ans d'un constat d'enfants qui étaient couchés sur les bureaux et tout ça. Et puis, à l'époque, le ministre Pagé a fait le tour des écoles, puis il s'est bien rendu compte d'une problématique. Puis il a dit, ben écoutez, je vais créer ce qu'on appelle aujourd'hui la mesure alimentaire. Donc, c'est une subvention qui a été donnée au Conseil de Lille, puis ensuite partagée comme un fonds de lutte à la pauvreté entre les commissions scolaires. Mais c'est toujours le même fonds et toujours depuis 25 ans.
Mm-hmm.
Et pour s'apercevoir qu'on rejoint que 10 000 enfants sur les 30 000 qui en auraient besoin.
Ouais.
Alors donc, on s'est dit, il nous faut faire de quoi? Et ce quoi-là, ben, c'est universaliser, ouvrir les portes de toutes les écoles et faire en sorte qu'un repas sain et nutritif puisse rejoindre tous les enfants. Parce que vous savez, il y a une problématique de sécurité alimentaire, donc des enfants qui n'ont pas accès à des repas de qualité. Puis il y a aussi des enfants qui ont des mauvaises habitudes alimentaires. Alors donc, cette solution-là viendrait combler des besoins de part et d'autre, tout en conciliant aussi le travail famille, et parents, famille, école et tout ça, les lunchs à préparer et tout ça. Alors, à ce moment-là, nous, on arrive, on dit, écoutez, il y a une alternative qui est là, qui pourrait être intéressante. Alors, donc, pour les parents qui pourraient payer un prix raisonnable, un bon repas pour leurs enfants, ben ça aiderait à nourrir les enfants qui, eux, n'ont pas accès à ces repas-là et dont les parents sont assez démunis.
Parce que je le disais tout à l'heure, Ghislaine Théoret, lorsqu'on a faim, bien sûr, ça a des impacts sur notre santé physique, mentale, des impacts aussi sur la réussite scolaire. On peut penser à des troubles d'attention, de comportement, mais ça a aussi un impact sur l'inclusion sociale à quelque part.
Oui, parce que ça fait une stigmatisation, hein?
Oui.
Nécessairement. Alors, à ce moment-là, écoutez, non seulement c'est aussi physique, aussi des impacts physiques là, au niveau du cerveau, développement de l'enfant et tout ça, des impacts au niveau de la concentration et tout ça, et surtout aussi avec les amis, hein?
Ouais.
À l'heure du dîner, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à lunch, puis qu'est-ce que l'autre a dans sa boîte à lunch.
C'est sûr que les enfants regardent ça, hein?
Oui, absolument. Et puis, écoutez, je trouve que la formule qu'on a, c'est qu'on arrive avec une cafétéria, c'est universel, pas de stigmatisation, tout le monde mange. D'ailleurs, c'est ce qu'on prône dans nos salles à dîner actuellement. Donc, puis ça fait que les enfants, eux autres... ils sont tous en bonne compagnie, puis c'est un moment d'un joyeux festin.
Voilà le plaisir autour de manger, parce que Cantine pour tous, et on le dit depuis tantôt, offre des repas chauds, nutritifs aux enfants dans les écoles primaires, mais aussi, il y a un programme d'éducation à la nutrition, aux saines habitudes de vie. Et ça, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que ça accompagne l'enfant dans toute sa vie.
Ben oui, on sait que les bonnes habitudes se prennent jeunes. Hein? Alors, c'est important l'attitude à la table, l'attitude face au repas qu'on reçoit. Et nous, dans le projet qu'on veut mettre, bien évidemment, il y a des super animateurs qui seraient là, puis évidemment encadrés de nutritionnistes et tout ça, là, pour inculquer ce volet petit à petit. Vous savez, on apprend à bien manger en voyant l'autre manger, oui, puis en comprenant ce qu'on mange. Puis d'autant plus que je dirais pas comme instructif, mais c'est, oui, oui, c'est à la fois instructif puis à la fois convivial.
Ben, ça fait partie de l'éducation,
oui,
tout à
fait. Ça
fait
partie de l'éducation, exactement. Alors, c'est pas un cours de nutrition que vous donnez aux enfants, mais on veut leur qu'ils s'approprient de bien manger tout en mangeant bien.
Oui. Justine Théorin, en terminant, oui, Cantine pour tous, c'est sur l'île de Montréal. Et là, c'est un projet pilote, mais où en est la phase? Là, on en est où dans le projet?
Le projet pilote, lui, débute là, en septembre. Il a débuté.
Oui. Hein?
Alors, on est actuellement là, dans deux écoles avec lesquelles on va mettre tous les paramètres possibles là, pour pouvoir bien évaluer le projet et l'étendre. Mais il faut dire qu'actuellement, quand même, les 13 organismes travaillent quand même dans leur secteur défavorisé. Ils sont, mm-hmm, présents. Mais dans les écoles pilotes, on est dans la première phase. L'année prochaine, on passera à une deuxième phase.
Parce que là, ce sont deux écoles qui peuvent, oui, être servies par Cantine pour tous. Et on vise combien d'écoles en tout? Le souhait, Ghislaine
Théorin? Oui, bien écoutez, dans la deuxième phase, ce serait, je pense, entre 6 et 10 écoles, selon l'ouverture là, qu'il y aura. Et évidemment, on vise l'universalité. Donc, on vise à long terme là, de rejoindre toutes les écoles là, sur l'île de Montréal.
Ouais. Et idéalement, oui, je lance ce souhait-là partout au Québec. Ça pourrait être quelque,
oui,
chose d'assez bien.
Évidemment,
que tous nos enfants...
Évidemment, c'est le deuxième souhait.
Ouais, que
oui,
tous nos enfants puissent
que ce
manger.
Modèle-là soit pris et il soit communiqué. Parce que vous savez, on est le seul pays du G7 à ne pas avoir de cantine,
ouais,
scolaire. Ça,
et ça,
dans un pays aussi riche que le Canada...
On a des questions à se poser. Voilà, Ghislaine Théorin, vous êtes présidente du conseil d'administration collectif de la Table des écoliers, également présidente directrice générale du Garde-manger pour tous. Merci beaucoup. Bon succès.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagnan à la recherche. C'était Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.